Radio France Internationale, il est 13h en temps universel, 15h, l'heure d'un nouveau journal avec Baptiste Coulon. Bonjour Baptiste.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. La présidentielle en Iran, c'est officiel. Deux candidats se qualifient au second tour. Un réformateur et un ultra-conservateur, nous serons à Téhéran dès le début de ce journal. Joe Biden au centre des critiques jusque dans son propre camp après un débat raté face à Donald Trump jeudi soir. Et le New York Times n'est pas plus tendre avec le président américain, vous allez l'entendre. Nous évoquerons l'Allemagne aussi dans ce journal où l'AFD, le parti d'extrême droite, tient son congrès trois semaines après les élections européennes et dans un climat tendu. Et puis après 15 mois consécutifs de hausse, la température des océans au sein du monde se stabilise enfin, mais reste à un niveau préoccupant. Rendez-vous le 5 juillet prochain dans les urnes en Iran pour le second tour de l'élection présidentielle. C'est officiel, deux candidats s'affronteront, un réformateur, candidat inattendu de ce premier tour, et un ultra-conservateur. Les résultats définitifs ont été annoncés ce dimanche par le ministère de l'Intérieur avec plusieurs surprises de taille. À Téhéran, la correspondance de Siavosh Ghazi.
Tout d'abord, la participation se situe autour de 40%, soit le taux le plus faible d'une élection présidentielle. Pourtant, le pouvoir et les ténors du camp modéré et réformateur avaient multiplié les appels aux électeurs, mais 60% des Iraniens ont refusé de se rendre aux urnes, signe d'un mécontentement profond dû à la dégradation de la situation économique et la répression du mouvement de protestation qui avait suivi la mort de Mahsa Amini en septembre 2022. Le candidat réformateur Massoud Pezeshkian n'obtient que 40% des voix. En face, le candidat ultra-conservateur arrive en seconde position avec un peu plus de 38% des voix. Si on ajoute à cela les 14% obtenus par le conservateur Mohamed Bayer Ghalibaf, le camp conservateur obtiendrait plus de 53% des voix. On s'oriente donc vers un second tour entre le réformateur Massoud Pezeshkian et l'ultra-conservateur Saïd Jalili. Dans ce cas, le choix des abstentionnistes sera déterminant pour le second tour. Ces prochains jours diront si les réformateurs vont réussir à mobiliser davantage leur électorat traditionnel, mais les choses s'annoncent plutôt difficiles. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
En Serbie, un homme tué par un policier ce samedi, cela s'est passé devant l'ambassade d'Israël à Belgrade. L'homme tué s'en était pris quelques instants auparavant à ce policier en le blessant d'un tir d'arbalète. Au moins 5 morts en Russie dans une attaque ukrainienne menée à l'aide de drones. Attaque dans la région frontalière de Koursk. C'est ce qu'annonce le gouverneur russe de cette région. Et dans le même temps, Moscou revendique ce samedi la capture d'un village près de Toretsk, ville visée par des attaques russes de plus en plus nombreuses depuis le début du mois de juin. Il est 9h02 à Washington. Est-il en mesure de briguer un nouveau mandat? Après un débat jugé raté face à Donald Trump jeudi soir, Joe Biden fait face à de nombreuses critiques. Le président américain est apparu fatigué, avalant parfois ses mots. Et le trouble est si grand que chez les démocrates, il s'exprime désormais publiquement dans son propre camp. Et même le New York Times, quotidien plutôt démocrate, estime que le président n'est pas à même d'assurer la fonction suprême après sa piètre performance. La correspondance de Loubna Anaki.
Les électeurs ne peuvent pas ignorer l'évidence. Joe Biden n'est plus l'homme qu'il était il y a 4 ans. Dans son éditorial, le message du New York Times au président américain et au parti démocrate ne laisse aucune place au doute. Le camp présidentiel vient de perdre un soutien de taille, même si le journal assure que si au final le choix est entre Joe Biden et Donald Trump, il soutiendra bien Joe Biden. Le quotidien salue le bilan du démocrate parlant, je cite, de président admirable, mais la performance de jeudi soir, insiste l'éditorial, ne peut être mise uniquement sur le compte d'un mauvais soir ou d'un rhume. La vérité, peut-on lire, est que Joe Biden a échoué à son propre test. Le New York Times estime que s'il persiste, le président, je cite, « prend un risque irresponsable. Rien ne justifie de risquer la stabilité du pays en forçant les électeurs à choisir entre les déficiences de M. Trump et celles de M. Biden. » Et le quotidien de conclure, « si le danger est aussi grand que Joe Biden le répète, et c'est bien le cas, alors son dévouement envers le pays ne lui laisse qu'un seul choix, celui de se retirer. L'appel du New York Times s'ajoute à ceux déjà exprimés jeudi soir par les commentateurs et journalistes de plusieurs médias, y compris les chaînes CNN et CNBC, d'habitude plutôt tendres avec les démocrates. Loubna Anaki, New York, RFI.
Les bureaux de vote ont ouvert à Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire français d'outre-mer. On vote dès aujourd'hui pour les élections législatives anticipées. Elles se tiennent demain dimanche en France métropolitaine. Premières estimations prévues à 20h, heure de Paris, et résultats que vous pourrez suivre dans les l'édition spéciale d'RFI demain à partir de 17h45, temps universel. Il est 15h05 à Berlin, en Allemagne. Ouverture aujourd'hui du congrès de l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, 3 semaines après les élections européennes où l'AfD est arrivé en 2e position derrière les conservateurs, réalisant au passage son meilleur score depuis sa création. Le congrès se tient sous haute tension à Essen, en Rhénanie, dans l'Ouest, et ce n'est pas un hasard, car l'AfD, bien implantée à l'Est, dans l'ex-RDA, ambitionne de gagner du terrain dans l'Ouest du pays. C'est ce que nous explique Hans Stark, professeur de civilisation allemande à la Sorbonne.
Si jamais ce parti avait pour objectif d'arriver vraiment au pouvoir, il devrait mener la politique de dédiabolisation menée par le Rassemblement National. L'AfD fait tout le contraire. Il se radicalise. Il essaie par moment même de réhabiliter certains éléments du national-socialisme. Ce n'était pas ça pour tous les hommes politiques de l'AfD, mais pour un grand nombre d'entre eux. Donc, il devrait se calmer, il devrait se modérer, il fait le contraire. Donc, est-ce qu'il y a derrière peut-être une stratégie d'absence de volonté de prise de pouvoir? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, ils ont, à l'Ouest aussi d'ailleurs, un électorat qui leur est acquis, mais qui ne fait pas 35%. Il est autour de 15% et ça plafonne depuis de nombreuses années. Et étant donné que même s'ils font de très bons scores aujourd'hui en Allemagne de l'Est, mais étant donné la situation démographique et le fait que les nouveaux Länder pèsent peu démographiquement parlant dans l'ensemble allemand, ils n'ont aucune chance d'arriver au pouvoir.
Propos recueillis par Daniel Valo. En République démocratique du Congo, la rébellion du M23 a pris le contrôle de Kanyabayonga, ville stratégique à une centaine de kilomètres au nord de Goma. Au moins 2 civils sont morts, 5 autres ont été blessés. Ce conflit oppose le M23, soutenu par le Rwanda, aux forces gouvernementales dans l'est du pays. Au Kenya, le bilan s'alourdit à 30 morts après la répression des manifestations de mardi. Manifestation d'une partie de la population pour s'opposer à une hausse des taxes. Ce dernier bilan est fourni par Human Rights Watch, pas de bilan en revanche du côté des autorités. 469 jours, soit plus de 15 mois consécutifs où la température des océans de la planète a battu tous les jours un nouveau record. Et il a fallu attendre ce vendredi 28 juin pour mettre fin à cet emballement. Bonjour Simon Rosé.
Bonjour Mathis.
Malgré cela, la température océanique reste toujours à un niveau très élevé et tout aussi préoccupant.
Et oui, c'est une série entamée en mars 2023 et les océans sont depuis entrés en territoire inconnu avec parfois des records dépassant la normale d'un degré. Ça a l'air peu, dit comme ça, un degré, mais il faut réaliser l'énergie nécessaire pour réchauffer l'ensemble des mers sur la totalité de la planète d'un degré, énergie qui alimente la machine climatique. Alors, si pour la première fois depuis 469 jours, ce vendredi 28 juin n'a pas battu le record de température, on reste toujours à un niveau très élevé que n'expliquent pas entièrement les scientifiques. Le réchauffement climatique joue un rôle important, tout comme le phénomène El Niño qui a contribué à cette série inédite, mais encore une fois, l'ampleur de l'écart par rapport à la normale et la durée de cette anomalie ne cesse d'interroger. Les prochains mois vont être importants pour savoir de quoi il en retourne avec la fin annoncée de l'épisode El Niño. On peut espérer enregistrer des températures moins exceptionnelles, même si les océans continueront de se réchauffer en tendance tant que les émissions humaines de gaz à effet de serre se poursuivront.
Merci beaucoup Simon Rosé. La guerre à Gaza, le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de 37 800 morts. Des dizaines de milliers de nouveaux déplacés ont fui la ville de Gaza après de nouveaux combats hier entre l'armée israélienne et le Hamas. La défense civile de l'enclave parle de nombreux morts. D'autres frappes israéliennes ont eu lieu dans le centre de la bande de Gaza, à Deir el-Bala et Nusayrat, mais aussi dans le sud, du côté de Khan Younes et de Rafah. L'Euro de football et les premiers huitièmes de finale se jouent aujourd'hui. La Suisse face à l'Italie, qui est la tenante du titre. C'est à suivre à partir de 16h, temps universel. Et puis, Allemagne-Danemark, c'est à 19h, temps universel. Un match que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct et en intégralité sur Radio France Internationale. Et puis, ça y est, le Tour de France cycliste s'est élancé tout à l'heure, un peu après midi, heure de Paris, première étape en terre italienne. C'est une première. Départ de Florence, arrivée aux alentours de 17h, tout à l'heure, heure de Paris, soit 15h environ en temps universel. Tout à l'heure à Rimini pour l'arrivée, toujours en Italie. Donc, une étape accidentée pour cette première avec plusieurs cols et 200 km au programme. Voilà pour l'essentiel. Merci à vous d'écouter RFI Radio France Internationale. Il est 15h, bientôt passé de 10 minutes ici à Paris. 13h et bientôt 10 minutes en temps universel. La suite des programme, c'est tout de suite sur RFI.